Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 8 avril 2024. C'est comme tous les lundis, c'est une room spéciale news de la semaine. Et vous voyez, on a beaucoup de monde aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme on est le deuxième lundi de chaque mois, c'est Mathis qui est avec nous. Salut Mathis.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Impeccable. Merci beaucoup. Alors, Mathis, t'es pas venu seul. On va peut-être déjà lancer le sujet du jour. Et le sujet, c'est un invité surtout.
Ouais. Bah, du coup, la grosse news de la semaine, c'est la grande expo de Kiki Picasso à l'espace Niemeyer qui a commencé il y a quelques jours, le 4 avril, magnifique, et qui continue jusqu'au 7 mai. Donc, pour ceux qui sauraient pas, qui connaîtraient pas l'endroit, l'espace Niemeyer, c'est le siège du Parti communiste à Paris, qui est place du Colonel Fabien. C'est ce grand bâtiment
incroyable,
imaginé par l'architecte Oscar Niemeyer, cette sorte de bulle en plein Paris. Et donc, c'est une grande expo qui présente 50 tableaux de Kiki Picasso, qui représente 50 ans d'histoire. Donc, il y a un tableau par année. Donc c'est 50 peintures grand format dans le style caractéristique de Kiki Picasso qui présente donc tous ces grands événements. Donc on a l'intervention.
Attends, ne nous en dis pas trop parce qu'on va en reparler dans quelques minutes. En tout cas, merci Kiki Picasso d'être avec nous.
Merci de m'inviter, bien évidemment. Hein? C'est à moi que tu disais ça?
Oui, oui. écoutez, c'est un grand honneur en tout cas. Et puis, il y a Simon qui est à l'aéroport. Salut Simon.
Ah, à Nice. Ah, moi, je suis niçois en plus. J'aimerais bien être à Nice.
Ah, voilà. On est tous les deux à Nice. Donc,
Ah bon, incroyable.
Hein. La prochaine fois que vous venez, vous nous dites comme ça. On ira se prendre un café course à Léa. Ok, alors on commence tout de suite, comme chaque semaine, en attendant John, on va commencer par les rooms de la semaine précédente, par un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc je vais vous partager mon écran immédiatement. Hop. Et voilà, et donc la semaine dernière, on était à la place de Mathis. Cette semaine, c'était Léo. Qu'on voit ici en bas à droite. Il y avait également Ingrid, puisqu'on a parlé un peu de droit et notamment du procès de Yuga Labs. Et puis avec Léo, on a surtout parlé de ce qui se passe un petit peu en ce moment avec les Runestones, justement. Et d'ailleurs, j'ai oublié de présenter un autre invité qui est avec nous. Alors, je ne sais pas s'il est revenu ou pas encore, mais on a la chance d'avoir Léo Caillard également ce matin. Qui va nous rejoindre dans pas longtemps. Donc c'était la semaine dernière. Donc on a parlé Runestone, de NFT sur Base et également donc un peu de droit avec Ingrid. Mardi on était plus sur un débat avec John et en fait on se posait la question finalement de savoir dans ce bull run qui a commencé il y a quelques semaines. Très crypto, très meme coin, même pour être plus précis. Et on se demandait où se trouve l'art dans tout ça. Est-ce qu'il y a encore, une hype autour de l'art NFT? Donc c'était un peu un débat. On n'a pas été forcément tout à fait d'accord, John et moi. Je vous laisse écouter, c'était assez intéressant, je pense. On a continué. Alors, mercredi, on a changé d'univers puisqu'on a parlé d'un jeu qui s'appelle Neopolis. C'est pour... alors, comment on pourrait résumer? C'est un espèce de Monopoly basé sur le monde réel et un Pokémon Go, voilà, pour essayer d'être... essayer de simplifier. Donc on avait les deux cofondateurs ou deux des cofondateurs plutôt du jeu, c'est Ben et Mathieu. Donc je vais vous montrer un petit peu le jeu. Voilà, c'est ça, Monopolis. Donc on achète des terrains qui sont autour de nous et puis on crée des expériences, etc. C'est assez cool. Vous pouvez essayer, c'est une appli qui se télécharge. Et puis mercredi également, comme tous les mercredis d'ailleurs désormais, on a la chance d'avoir Samy Berouni de Décrypte. Et en fait, Samy revient toutes les semaines sur un article paru dans Décrypte. Et là, c'était la suite de l'article de la semaine précédente. On a parlé d'intelligence artificielle et, en fait, et de la BBC. Et puis cette fois, en fait, c'est une actrice qui était qui faisait de la doublure, qui a été remplacée par une IA. Donc voilà. Donc on s'intéressait ben, à tous les problèmes finalement éthiques, etc., que ça pouvait poser. Jeudi, on a continué. On a retrouvé Ingrid jeudi et son invitée Amélie Favreau, qui est professeure, maître de conférences dans plusieurs universités. Et là. On s'est intéressé au droit de la collection, savoir finalement qu'est-ce qui, déjà, c'est quoi une collection, comment ça peut juridiquement, c'est quoi son statut, et puis évidemment on a parlé des collections NFT, la différence entre les unes et les autres, et puis aussi toute la partie fiscalité qui était qui lui aurait associée. Donc ça aussi très intéressant, n'hésitez pas à réécouter. Et enfin, je me retrouve. Bon, dernier onglet, voilà, hop. C'était vendredi, et là, on était avec Michael Amar, qui est un des cofondateurs, ou même le fondateur de la Paris Blockchain Week, qui commence demain à Paris, au Carrousel du Louvre. Et donc, on est revenu déjà sur son parcours entrepreneurial. Les sociétés qu'il a créées, certaines qu'il a revendues, sa période américaine à la Silicon Valley, et puis toute la genèse de la Paris Blockchain Week jusqu'à aujourd'hui, et tout ce qui nous attend pour cette semaine de conférences. Donc voilà, c'était le programme de la semaine. C'était assez cool déjà. Je ne sais pas si vous avez écouté Mathis ou Kiki ou Simon.
Moi, j'ai écouté.
Ouais. Salut, John.
Hello, hello.
Ça va bien.
Eh bien, super. Désolé pour le retard. Enchanté, Kiki. Ravi de t'avoir. Ravi de t'avoir parmi nous. On est très, très contents. Merci, Rem, pour ce bon résumé des news de la semaine. J'étais pas là vendredi, mais je vais réécouter ça avec impatience. Et en effet, je serai présent sur quelques events de la Paris Blockchain Week pour ma part aussi cette semaine. Donc, je ne sais pas.
Aujourd'hui, il y en a un qui est assez, assez cool. D'ailleurs, c'est tout ce qui est relatif à l'IA.
Ah ouais? Justement. Ah oui, oui, c'est la Before. Ils font un summit sur l'intelligence artificielle, ouais.
Exactement, ouais.
Exactement. Et demain, on fait la soirée Web3 Culture au Wojo Coworking. Je co-organise cet événement avec Defeat, avec Waldo's Legend, avec Crypto Stories, Bean Crypto, Coin Note, Crypto Daily. Enfin, je mets à jour ce qu'on a ce matin. Donc voilà, ça se passe à partir de 6h30, 9 rue Saint-Lazare. Wojo Coworking dans le 9e à Saint-Lazare. Voilà. Et donc 18 rue de Londres. On va passer aux news du coup, c'est ça?
Eh bien oui, exactement.
Génial.
Les news et à l'interview de Kiki Picasso.
Exactement. Eh bien Mathis, je vais peut-être te laisser nous introduire ça parce que c'est ta rubrique. Enfin, Kiki Picasso, j'ai la chance de suivre ça, notamment grâce à toi Mathis et puis aussi avec Alex depuis pas mal d'années déjà. Et donc, je suis très très content que tu sois avec nous. Kiki, je sais que c'est ce monde aussi des NFT, du digital, te titille depuis longtemps aussi. Donc, je te laisse, Mathis, introduire tout ça. T'es en mute, mon ami.
Effectivement, ouais. Donc, c'est un projet qui de longue durée, cette arrivée de Kiki Picasso dans l'univers de la blockchain et des NFT. Kiki Picasso, pour le présenter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un artiste qui a déjà près de pas loin de 50 ans de carrière. Ça a commencé dans les années 70, 1976, avec le mouvement Bazooka, qui à l'époque a commencé à révolutionner l'art graphique, qui avait notamment collaboré avec le journal Libération à l'époque. Et ensuite, Kiki a continué en en touchant en fait à différents médiums. Il a fait donc de la vidéo, de l'art graphique, maintenant il fait de la peinture. Il a toujours aussi été très présent dans le digital, et c'est ça au fait qui là est intéressant par rapport au NFT et à la blockchain, c'est que il s'est toujours intéressé aux nouvelles technologies. Il a toujours considéré, alors il le dira mieux que moi hein, après, mais il a toujours considéré que les nouvelles technologies étaient un moyen de faire de la, entre guillemets, de la propagande artistique, et donc finalement de faire passer des messages par tous les médiums possibles. Ça a été surtout un des premiers artistes dans le monde à utiliser l'ancêtre de la tablette graphique qui s'appelle la Paintbox, et ça dès les années 80. Donc, je vais le laisser un peu expliquer tout ça, et bien sûr en fait rappeler ce que je disais un peu en début d'émission, c'est que s'il est là aujourd'hui, c'est parce que il fait sa grande exposition à l'espace Niemeyer, où il présente 50 tableaux qui regroupent 50 ans d'histoire de l'histoire de France, et surtout un de ses tableaux, celui de 2017 qui représente l'élection, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Représente aussi les CryptoPunks, puisque c'est l'année 2017 où les CryptoPunks sont nés. Et ce tableau a été fait avec une petite collab avec le collectionneur Dan Polko, puisque les CryptoPunks qui sont sur la peinture sont des CryptoPunks qui appartiennent à Dan Polko. Et donc, ce NFT est vendu déjà. Il est vendu sur Super Rare. Donc, le prix de départ, c'est 9 Ether. Et bien sûr, le NFT, en fait, donne le droit à l'œuvre physique. Et inversement, celui qui achète le physique a le droit au NFT.
Et, je partage ton écran, Mathis, comme ça, n'hésite pas à scroller si tu veux. Ouais, voilà. Descendre un petit peu dans les œuvres.
Je vais vous montrer, effectivement. Ça, c'est le... Alors, attendez. Voilà. J'ai changé l'onglet. Ça, c'est l'œuvre sur Super Rare. Je ne sais pas si on la voit.
On voit, je vois, moi.
On voit tout. Alors, temporaire, 2017, en effet. Voilà. Et donc
on voit les CryptoPunks qui sont ici. Donc, Kiki, je te laisse un peu parler. J'ai un peu beaucoup parlé là, mais Kiki, je te laisse peut-être présenter un peu l'exposition qui est à l'espace Niemeyer en ce moment. Et puis après, on parlera un peu plus précisément des NFT.
Bien sûr. Bon, bah ça, c'est une série, cette série à l'heure actuelle de 50 tableaux qui sont en général de 1 mètre par 2. J'ai commencé cette série pour une exposition qui a eu lieu en 2017 à Maison Rouge. Maison Rouge, c'était une sorte de musée qui est à Paris, du côté de Bastille, mais bon, qui maintenant n'existe plus. Mais préparer une exposition qui s'appelait L'esprit français de 69 à 89, c'est-à-dire l'esprit français dans la contre-culture, c'est-à-dire toute la culture qui pouvait avoir eu lieu après 68, tous les changements dans la société, l'arrivée des mouvements féministes, des mouvements contre l'homophobie, tous les mouvements pour l'avortement, enfin, on a vraiment Harakiri, bien sûr, avec qui j'ai travaillé beaucoup, toute la presse un peu, je dirais, de gauche, voire d'extrême gauche, avec laquelle j'ai collaboré. Et toujours est-il que, étant donné que j'avais traversé toutes ces années en activiste graphique ou idéologique sur plein de supports différents, les organisateurs de cette expo m'ont donné un mur, un très grand mur, en me disant, ce qu'il fallait, c'était respecter un peu le concept de 69 à 89. Et j'ai fait une série de 20 tableaux, un tableau par an, chaque tableau représentant un événement ou deux événements mis côte à côte et créant un rebond un peu insolite, comme par exemple, si je prenais un exemple, on a la même année la naissance de Zinedine Zidane et la naissance du Front National. Tout le monde était ravi de cet ensemble de travaux qui finalement ont été vendus. Quelqu'un a acheté la collection, un gros collectionneur français qui s'appelle Laurent Dumas, du groupe Emerich, a acheté l'intégrale de toute cette série qui se retrouve, voilà. Là, les tableaux qu'on voit en ce moment, ce n'est pas la première série. Donc, au début, j'étais uniquement sur des événements français. C'était le sujet de l'expo. Et après, quand toute cette exposition s'est terminée, j'ai pris plaisir à Oui, parce qu'au début, dans l'expo, j'aurais dû accrocher sur les murs des travaux de ces années-là, finalement. Comme j'en ai fait un certain nombre. Et finalement, j'ai choisi plutôt de créer un ensemble de tableaux qui représentaient ces époques-là, mais avec la logique de parler d'événements du passé avec des images contemporaines de temps en temps. Donc après, d'une certaine façon, j'ai continué. Mes premiers formats étaient à la verticale, et là, vous voyez défiler un certain nombre d'images représentant des événements plus contemporains que de 69 à 89. Comme par exemple, là, celui-là, c'est ça va très vite, mais par exemple, celui-là, c'est les premières arrivées de la grippe aviaire à H5N1 dans le monde. Et là, on se retrouve avec les équipes, tous des milliers, voire des millions de volatiles abattus lors de cette histoire. Et là, du coup, maintenant, il y a 30 nouveaux tableaux. Ça, c'est carrément le premier chinois dans l'espace, la même année que le retour de Columbia. Là, on voit les 7 cosmonautes de Columbia, Columbia qui explose 15 minutes avant l'atterrissage. Donc là, j'ai un parallèle entre les premiers chinois dans l'espace et la fin du programme Columbia, d'ailleurs. Ces pauvres cosmonautes à qui, dès le départ de la navette spatiale, la NASA sait qu'ils ne vont pas rentrer, on ne va pas leur dire, et la navette va exploser donc quasiment 15 minutes avant l'atterrissage.
Et, voilà. Et du coup, là, pour le... Donc, voilà, effectivement, donc, comme tu dis, Kiki, chaque tableau, en fait, présente une année avec des parallèles du coup intéressants qui mettent en avant l'importance des différents événements. Et donc, pour cette exposition-là, tu as décidé d'explorer un peu. Alors, ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, je précise, que tu explores l'univers de la crypto, puisque en 2017, tu avais déjà fait un projet artistique autour du Bitcoin qui consistait en fait en des racks de minage qui minaient du Bitcoin. Donc, tu t'es intéressé très tôt à cette technologie, puisque 2017, c'était encore une époque où peu de gens s'y intéressaient et peu d'artistes, notamment, s'y intéressaient. Et tu as toujours été à la pointe pour utiliser les nouveaux outils technologiques. Donc, peut-être que tu peux nous expliquer un peu en quoi ces outils-là, en quoi les NFT, la blockchain, t'ont intéressé très tôt, en fait, et pourquoi tu as décidé, là, pour cette exposition, donc, je rappelle, de faire non seulement un NFT, une version NFT d'un des tableaux, mais il y a aussi des open editions des autres tableaux. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer que il y a 20 NFT de cette série d'open editions qui seront offerts aux auditeurs du NFT Morning. Donc, pour les premiers auditeurs, peut-être qui enverront un message, qui répondront à un message Twitter, il faut qu'on s'organise là-dessus. En tout cas, on les offre. Et il y aura aussi des places pour la grande soirée du 26 avril lors de l'exposition, où il y aura notamment des concerts avec notamment Oxmo Puccino ou encore la chanteuse Mylan qui seront là en concert. Et pareil, on offre des places pour les auditeurs. Voilà.
Alors attends, j'entends parler de cadeaux, moi je réagis du coup parce que c'est… Donc c'est quoi on peut gagner, tu peux juste pour être certain, on peut gagner quoi?
Alors, donc il y a une version, donc le tableau dont j'ai parlé vendu à 9 Ether qui est lié à l'œuvre physique qui montre donc la naissance des CryptoPunks en 2017 et l'élection de Macron. Ça, c'est un tableau qui est vendu sur Super Rare. Et en parallèle, il y a des versions NFT d'autres tableaux présentés lors de l'exposition qui sont je vais partager l'onglet. Voilà, sur OpenSea, ces open editions sont disponibles à un prix minimal de 0,01 Ether. Donc c'est des open editions et il y en a 20 de ces open editions qui seront donc offerts aux auditeurs. Voilà, c'est ça le cadeau.
20 open editions offertes.
50.
50, on monte 50, allez.
50 open editions offertes, ok, d'accord.
50 open editions.
Eh bien, on va faire un truc très très simple, on va faire un tweet, on va dire aux gens de poster leur adresse Ethereum pour profiter d'une open edition.
Top. Ouais.
Rem, I+.
Oui, pardon, parfait.
Et donc, du coup, Kiki, maintenant qu'on a présenté ça, tu peux peut-être nous expliquer voilà pourquoi tu t'es intéressé à la blockchain et, au NFT et pourquoi tu as décidé à l'occasion de cette exposition-là de te lancer dans, dans l'univers NFT.
Ma passion pour l'image électronique a commencé en 81. C'est en 81 qu'arrive la première Penbox en France. Voilà, les premières palettes 16 millions de couleurs. Là, on est vraiment, je ne sais pas quand commence, par exemple, l'arrivée de Photoshop, mais les premières machines, c'est vraiment quasiment le truc fou. C'est qu'elles sont, par exemple, interdites à l'exportation parce que les Russes pourraient fabriquer des missiles avec l'électronique qui est à l'intérieur de ces ordinateurs. C'est des machines qui sont à peu près grosses comme un frigidaire d'aujourd'hui. Et je me mets à travailler là-dessus, fasciné. Comment je me mets à travailler là-dessus? D'abord, je fais du dessin animé. C'est dans les régies vidéo qu'arrivent les premières palettes électroniques qui étaient des générateurs de caractères auxquels on rajoute un crayon. Voilà, c'était les outils pour faire les génériques. Moi, j'arrive dans des régies vidéo où jusqu'à présent, je travaillais image-image en dessin animé au banc-titre traditionnel. Et quand je vois ces machines arriver, je suis complètement vraiment fan de ça. Et je fais pendant 10 ans, j'ai complètement arrêté de dessiner à la main et je me suis uniquement... j'ai uniquement travaillé avec les ordinateurs. À ce moment-là, les ordinateurs, on ne peut pas travailler pour la presse, on peut travailler que pour la télé. Donc, quasiment pendant 10 ans, j'ai fait que de l'habillage d'antenne, des émissions. Ça a fini par le fait que je produise d'ailleurs toutes les émissions de France 2 à l'époque, les programmes jeunesse. Ça travaillait vraiment pour les enfants. C'est comme ça que j'ai remboursé toutes ces machines qui valaient extrêmement cher. J'avais aussi le Hari. Le Hari, c'était la première unité de montage digital qui arrivait. Quand on la voit arriver, on avait l'impression que c'était quelque chose complètement de miraculeux, c'est-à-dire l'ancêtre, on pourrait dire, de Premiere, Final Cut et ce genre de logiciel. Après, au fur et à mesure, je me suis toujours extrêmement intéressé à tout ce qui pouvait arriver dans le domaine des nouveautés du numérique. Et tout à coup, je vois arriver le NFT. Le NFT, plein de camarades autour de moi, informaticiens, passionnés par tout ça, m'encouragent à venir bosser avec eux. Sur le moment, je me demande quoi faire des NFT, vu que l'ambiance, elle était quand même beaucoup basé sur comment gagner de l'argent en faisant le moins possible quand même. Et on se retrouvait avec, des amateurs qui étaient plus des boursicoteurs que des gens qui créaient vraiment des œuvres. Donc, la logique, c'était mettre en place un NFT pour espérer faire la culbute et qu'un investissement de 10 euros en rapporte 100 000 le plus vite possible. Et j'avais l'impression quand même que la plupart des gens, la seule chose qui les intéressait, c'était ça. C'était de s'enrichir. S'enrichir, c'est tout à fait honorable, naturellement. Tout le monde tente de s'enrichir à travers le temps. Mais moi, ça me gênait un peu. Je n'ai jamais joué à la bourse. Et à la fin, je me disais, quoi faire de ce monde? Et bon, avant de m'intéresser à l'NFT, je m'intéressais au fait de miner de la crypto-monnaie. Donc, j'ai créé des sortes de racks de minage, mais au bénéfice d'associations culturelles ou de groupes de musique. Et par exemple, mes premières machines de minage se sont retrouvées à la Cité des Sciences lors de journées liées à la toxicomanie, parce que je travaille beaucoup avec une association qui s'appelle ASUD, Autosupport Usagers de Drogue. Ces machines étaient censées rapporter de l'argent pour par exemple, une association qui s'appelait valorisant le cannabis thérapeutique, voilà, ou un groupe de camarades musiciennes, un groupe un peu crypto-punk justement qui s'appelait les King's Queer. Mais après, tout ça a démarré, je trouvais ça plutôt assez amusant, mais c'est là où la crypto-monnaie s'est effondrée. Mais après, en parallèle, l'idée de créer des œuvres numériques, qu'est-ce que je trouve amusant, par exemple, je trouve ça très très bien, les collections de NFT parce que c'est des collections pas encombrantes. Moi, je fais des tableaux un peu grand format. À la fin, c'est des collections très, très encombrantes. On se demande où les ranger. Le NFT, de voir un collectionneur trop content montrant sa collection dans son téléphone portable, c'était d'ailleurs le cas de Matisse, et de voir des gens se partager leur plaisir à collectionner, comme dans le temps, des gens achetaient des posters dans les librairies pour les mettre dans leur chambre. Mais maintenant, les posters deviennent des sortes de fichiers numériques qui ont la même valeur, je dirais sentimentale, hein, en dehors de cette valeur comment dire, financière. Et au fur et à mesure du temps, donc je continue toujours à être en veille. Je dirais que je suis en veille sur tout ce qui peut arriver dans ce monde-là et à trouver ça amusant. Mais je continue à me demander quoi faire des NFT. Mais de la même façon, en étant peintre depuis maintenant un certain nombre d'années, j'ai le même problème qui est quoi peindre finalement. Quoi peindre des petits chats, des femmes nues, des accidents de voiture, des avions, des jouets, enfin voilà, donc on est toujours quoi faire avec l'art. Et quand vous évoquiez votre podcast d'avant sur quoi faire comme art avec les NFT, oui, on a toujours le même problème, c'est des problèmes insolubles d'ailleurs auxquels je suis confronté aujourd'hui. Et tout à coup, quoi faire là? J'étais très content d'arriver sur une idée de raconter l'histoire contemporaine à travers un ensemble de travaux. Voilà. Là, pour le moment, je me suis arrêté à 2019, mais j'espère bien aller jusqu'à 2200 à peu près, si je suis en bonne santé jusque-là, bien évidemment. Donc, je vais continuer. Là, je m'arrête à 2019, mais par exemple, j'ai pas encore fait. Le Covid, je n'ai pas encore fait Gaza, sans doute. Je vais faire un tableau sur Gaza. Voilà, il y a plein d'événements en permanence. Bon, pour le moment, j'en fais un par an, mais je compte continuer.
Et là, du coup, ouais, effectivement, donc 2017, c'était effectivement une bonne... C'était pertinent puisque c'était la naissance des CryptoPunks. Et puis, en plus de ça, je salue d'ailleurs au passage Dan Polko qui a participé aussi à ce projet et qui a prêté l'image de ces CryptoPunks qu'on voit apparaître sur l'œuvre, puisque donc 2017, c'est l'année de naissance des CryptoPunks et l'année de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Je salue aussi Grida, au passage, de IAM Gallery, puisque c'est elle qui nous a accueillis sur sa galerie super rare, qui a aussi participé au projet. Donc voilà, c'était intéressant, effectivement, de voir que Kiki, qui a effectivement participé avec, qui a utilisé les premières tablettes graphiques, qui a aussi été un des premiers artistes à utiliser Internet comme médium dès le début des années 2000, avec à l'époque, il y avait un site Internet qui reprenait pareil le même principe des grands événements, mais c'était au quotidien, basé sur des dépêches AFP et d'autres agences de presse mondiales. Et donc, c'était un peu les débuts de l'Internet art aussi. Donc, en fait, Kiki, il était toujours présent au début de chaque nouvelle technologie. Donc, c'était logique, finalement, qu'il soit présent aussi pour les débuts de... parce qu'on est encore dans les débuts, hein, pour les débuts de la blockchain et des NFT. Et donc, du coup, là, c'était pertinent, sur 2017, de faire cette œuvre avec les CryptoPunks qui s'incrustent, du coup, dans cet événement, puisque c'est une peinture, en fait, qui existait déjà et que Kiki, en fait, a en quelque sorte remixé pour l'occasion avec les NFT de Dan Polko, et donc c'est CryptoPunks qui s'incrustent à la réception, cette réception un peu guindée qui montre un peu aussi l'aspect d'Emmanuel Macron qui se présentait comme un homme de gauche et qui finalement a montré qu'il était peut-être un peu plus du côté des élites comme le montre cette image-là. Et donc les CryptoPunks aussi, pareil, c'était pertinent puisque Kiki, en fait, lui, a toujours été dans ce mouvement, on va dire, punk, et il a toujours été un peu punk dans l'âme. Et donc, du coup, c'était logique que technologie plus punk, on arrive finalement au crypto-punk. Donc, il y a pas mal de parallèles qui étaient assez évidents. Et c'est pour ça aussi que Kiki, dès qu'avec Alex, on lui a présenté l'idée, il a tout de suite accroché. Et puis d'ailleurs, il ne nous avait pas attendu, comme je disais, pour s'intéresser à la crypto.
Super. Attendez, est-ce que vous m'entendez?
Ouais.
Parfait, très bien. Eh bien, écoute, merci Mathis, merci Kiki. Et pour rappel, donc, le vernissage, ça a lieu quand déjà?
Alors, le vernissage a déjà eu lieu, c'était le 4 avril. Je te laisse parler, Kiki. Ouais. Vas-y.
Oui, oui, le vernissage, il y avait ta maman d'ailleurs, Mathis, qui est venue. Ouais. Voilà, mais je ne l'ai pas vue, mais après, elle m'a dit qu'elle était passée, qu'elle avait été très contente de voir l'exposition. Oui, le vernissage, c'était le 4 avril, donc il y a quelques jours. Là, en ce moment, l'exposition est ouverte, entrée libre. On fait des événements voilà, pendant l'exposition, toujours, comme ce fameux concert du 26 avec un ensemble, un certain nombre de camarades qui vont passer sur scène. La scène étant la coupole de l'espace Némeyer, c'est-à-dire un endroit complètement dingue, qu'on a l'impression d'être dans un vaisseau de Star Trek quand on est à l'intérieur. Je rappelle que Némeyer, c'est l'architecte qui a fait Brasilia, par exemple, pour avoir une idée, c'est-à-dire un concept d'architecture extrêmement futuriste. Et après, la façon dont j'arrive sur l'actualité, c'est que dans le temps, voilà, et là c'est il y a longtemps, maintenant, en 78, je travaille dans Libération. C'est le moment où Libération est en autogestion. En autogestion, c'est-à-dire que quand on rentre dans ce journal, si tout à coup des gens trouvent qu'on en fait trop, il faut que carrément toute la rédaction, les travailleurs, depuis le directeur de publication jusqu'aux gens qui font le ménage la nuit, votent tous ensemble si on garde ou pas un collaborateur. À cette époque, beaucoup de gens dans la rédaction, parce que non, finalement, étant donné qu'on est en autogestion dans un support relativement libertaire, c'est-à-dire à l'époque, vraiment, Libération, c'est un journal d'extrême gauche, on prend des libertés, on est très très jeune et on prend le pouvoir dans le journal complet, c'est-à-dire les gens nous accusent de massacrer le journal, en vérité, tout ce qu'on veut, c'est améliorer. La logique aussi de travail, de base, c'est de changer la façon de voir l'actualité, la façon de changer aussi de la voir, mais de l'inventer de temps en temps ou de l'exprimer en la suivant. Donc, finalement, Libération, pour se débarrasser de nous, vu qu'on avait toujours trop d'amis dedans chaque fois qu'on votait, ils ont trouvé une seule solution, c'était de nous payer un journal qui s'est appelé « Un regard moderne ». Et ce journal, malheureusement, a fini par s'arrêter et on a perdu le pouvoir dans la structure. Mais après quelques années, au tout début d'Internet, on a refait unregardmoderne.com, dont en ce moment, bon, qui n'existe plus sur Internet, mais qu'on peut trouver en surfant sur la Wayback Machine, là, qui dépend de la librairie du Congrès, où on a été beaucoup répertorié. Parce que ça, je sais pas, moi-même, sur ce support Internet, j'ai dû faire au moins 2000 images. Le truc amusant, c'est quand on fait ça, on a été élu meilleur site de l'année par les internautes de Yahoo. On avait été aussi élu meilleur site d'information par les jésuites de France, par exemple, c'était très étonnant. On était remercié par les Moudjahidines du peuple sur la façon dont on traitait l'information à l'époque. Il n'y avait pas du tout de publicité. À la fin, on a eu quand même toutes les grosses agences de presse comme l'AFP qui nous sont tombées dessus pour copie servile. Parce que naturellement, on prenait les images, on les transformait en GIF animé. À l'époque, il fallait, pour qu'Internet tourne, avoir des fichiers très très bas. Donc, on faisait des fichiers GIF qui ne devaient pas mesurer plus de 70 KO, là, voilà, et c'était toute la logique. Au fur et à mesure du temps, d'une certaine façon, bilan provisoire, où on peut trouver pas mal d'informations sur ce projet, parce qu'il y a un bilanprovisoire.com qui existe en ce moment. C'est un peu la succession de tout ce travail dit du regard moderne, voilà, parce que le regard moderne, c'était on sortait, édité par Libération, on sortait à la fin de chaque mois, c'était un journal de 30 pages, chaque page c'était un jour du mois, un événement du mois, il y a eu plusieurs numéros comme ça, on a donc continué sur le regardmoderne.com et d'une certaine façon, là je suis en train de continuer ce concept de suivre l'actualité, de l'illustrer en tentant de la présenter d'une façon différente. Voilà, moi, j'aime bien travailler sur l'actualité depuis longtemps. Je suis désespéré quand je vois un JT, quand je vois tous les JT du monde, d'ailleurs, avec leur plateau.
Toujours alors, on voit, en fait, c'est vraiment le rôle, en effet, on comprend. Puis le rôle, finalement, de la satire aussi, avec pas que ça, évidemment, mais c'est raconter ton histoire et raconter avec ton œil aussi et ton trait, justement, la manière dont tu vis ça. Et c'est intéressant parce que c'est une bonne jointure aussi et ça me permet de faire une transition aussi avec notre autre invité, justement, Léo Caillard. Tu fais le lien entre la peinture, l'actualité et le numérique. Et Léo ici présent, lui, travaille le marbre. Travaille le marbre depuis, on va dire, sculpteur de formation et retranscrit aussi du coup la matière dans le monde numérique. Salut Léo, comment ça va?
Bah écoute, salut NFT Morning, salut tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Je ne suis pas encore habitué à StreamYard, mais très cool de voir sur ce format-là.
Eh ben écoute, ouais, là, on monte nos visages aujourd'hui. C'est la spéciale hebdomadaire où on est en vidéo. Donc, je ne sais pas si vous vous connaissez d'ailleurs, Léo, Kiki, si vous avez entendu parler l'un de l'autre. Vous êtes dans des sphères un peu différentes, je pense. Mais en tout cas, voilà, pour introduire, tu as pu écouter un peu l'introduction du coup de tout ce que fait Kiki. Et donc, en effet, cette expo en cours. Et donc, n'hésitez pas à partager là tout de suite vos 0x aussi pour le airdrop de l'Open Edition pour suivre ce qui se passe. Et en effet, Léo, alors Léo, c'est un peu là, t'es sous les feux. Ta runestone que t'as créée, on t'avait reçu il y a 2 semaines. Et un peu partout, j'ai vu tes tweets justement. D'ailleurs, je vais les partager, mais. On a vu que, d'ailleurs, même Beeple, finalement, a immortalisé ta création. Excusez-moi, c'est là. Beeple a immortalisé ta création dans une de ses Everyday. Je crois qu'on la voit sur ton feed quelque part. Je l'avais vu quelque part, mais je ne sais plus où.
Je crois que c'est un des tout derniers tweets. Ouais, c'était hier, voilà.
Voilà. Ouais. Ça fait quelque chose, ça, j'imagine, quand même, non?
Ouais, bien sûr. On en avait parlé la dernière fois. Déjà, je rebondis sur la discussion que vous avez eue juste avant sur le fait de quoi créer. C'est vrai que quand on est artiste, c'est très intéressant de se poser la question de qu'est-ce que l'on crée. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'approche du projet Runestone, dont j'ai eu la chance, en fait, d'être appelé pour, c'est vraiment chapeau bas à Léonidas et à ses fondateurs sur Ordinals qui ont vraiment réfléchi à créer quelque chose de nouveau sur Bitcoin. Ce que je trouvais intéressant dans leur approche, c'était de fondamentalement tenter de créer quelque chose qui n'avait jamais été fait, qui était de l'archéologie numérique en essayant d'inscrire ad vitam un morceau de pierre en chain et quelque chose qui soit en 3D, qui soit vraiment un fichier lourd et complexe et figuratif assez défini. Entièrement sur la blockchain Ordinal, ce qui est extrêmement dur techniquement. En gros, pour faire court, on a une limite de 340 kilooctets normalement pour inscrire un objet sur Ordinal. Et là, la pierre runique fait un peu plus de 3,9 mégas. Donc, c'était vraiment un autre registre de taille. Et c'est ça qui a été vraiment très intéressant dans ce projet. C'était un nouveau médium. Et je suis sculpteur sur pierre depuis 15 ans, passionné de marbre. Et le fait de créer une rune en 3D comme ça, une pierre qui soit vraiment totalement sur la blockchain. Je trouvais l'idée fondamentalement intéressante artistiquement. Après, voilà, j'avoue que j'ai été un peu dépassé par la visibilité du projet. J'en suis ravi, mais c'est encore une fois chapeau bas à tous les builders qui ont construit ce projet. Moi, je suis que l'artiste, entre guillemets. Mais voilà, Léonidas m'a contacté spontanément en me disant qu'il voulait que la runestone soit faite par un sculpteur et parce qu'il trouvait que j'étais le seul à vraiment faire le lien entre sculpture physique et création digitale. Il m'a gentiment proposé de le faire. Je ne m'attendais pas à ce que ça explose autant. J'en suis ravi et c'est une très belle visibilité. Et je suis vraiment très, très heureux de tout ça parce que ça a été très bien accueilli par la communauté, par le marché, par des choses qui montrent que ça a du sens. Et voilà, Beeple qui tweet hier, c'est vrai, moi je le suis depuis plus de 12 ans. Quand j'étais un étudiant, je regardais le blog de Beeple un peu, et pour moi c'est une très belle Voilà, une très très belle chose et je suis très heureux de voir qu'il l'ait mis en ligne juste hier.
Eh ben, c'est génial. Et là, je suis en train de montrer. Tu m'entends, je ne sais pas si on m'entend parce que du coup, je vire entre les fenêtres. Vous m'entendez, hein?
Ouais. Oui, je t'entends. Ouais.
Donc là, je suis en train de... Justement, donc, on t'avait reçu. Enfin, ce projet Runestone, c'est vrai qu'il est assez incroyable. Moi, je pense que c'est. En fait, plus je la vois, cette Runestone, plus je trouve que ton apport, quand même, Léo, est. Enfin, et c'est vrai que tu l'as dit, c'est sur l'impulsion de Léonidas, mais l'apport de créer une physicalité assez forte et matérielle dans un protocole technique, quand même, parce que Rune, ça va être un protocole qui permet de faire des tokens, de lancer des crypto-monnaies, de faire des choses. Enfin, c'est à la fois très technique, très financier. Et en fait, de créer cette pierre, finalement, c'est plus que la Runestone. C'est devenu un peu le symbole de ce protocole, j'ai l'impression. Je ne sais pas si tu as ce sentiment qu'il y a une association d'esprit très forte et une sorte une sorte d'élément visuel fédérateur de communauté. Tu as ce sentiment un petit peu ou pas?
Je suis très agréablement surpris de voir que c'est en train de devenir une sorte d'icône qui est repris d'ailleurs, parce que le principe, hein, la signature de ce projet que j'aimais aussi beaucoup intellectuellement, c'était que tous les créateurs, tous les constructeurs le faisaient bénévolement. Donc ça génère un marché énorme, mais je n'ai rien touché dessus. C'est un don de la Runestone de manière absolument gratuite et entière. Et c'est le second marché qui crée un volume exceptionnel et cette Runestone, elle appartient à tout le monde. Et ça devient une sorte d'icône parce que les gens s'en font des pendentifs, les dessinent, ça apparaît dans plein de sujets. Et c'est vraiment très intéressant de voir que ça dépasse le cadre du projet créatif simple pour devenir une sorte d'icône d'une époque, d'un mouvement qui sera ce qui sera. Après, c'est vraiment à l'histoire d'en faire une œuvre durable ou non, mais à mon avis, on est en train de s'inscrire dans quelque chose qui aura une identité forte. Et en tout cas, il y a un rebondissement extrêmement fort de la part de tout le monde autour de ce projet. Et de voir voilà, des gens comme Beeple co-créer cette œuvre, finalement, de voir toutes les choses qui arrivent derrière, le protocole Rune qui va aussi simplifier beaucoup de choses sur Ordinals. Et d'en faire partie à son origine, j'avoue que c'est une grande joie. Maintenant, je l'ai fait parce que ça a du sens artistiquement. Encore une fois, il n'y a vraiment aucun opportunisme là-dedans. C'est Léonidas qui est venu, qui m'a parlé de ce projet. Ça s'appelle Runestone, je fais de la sculpture sur marbre. Je suis en train d'ailleurs de sculpter des grandes runestones en pierre parce qu'il y a l'idée d'en mettre dans les champs de menhir en Bretagne ou même en Suède. Enfin, il y a tout un délire aussi physico-digital que je trouve très drôle là-dedans. Voilà, c'est que le début, mais je pense bien que ça va être encore une image, un visuel qui va faire son chemin et qui va durer encore un certain temps.
Ouais, je trouve que le positionnement est intéressant, enfin, du nom du projet. Il y a forcément un aspect spirituel assez fort hein, qui ressort, un peu cultiste. Il y a cet aspect-là un petit peu... forcément, qui parle, en effet, ça évoque des menhirs, des monolithes, enfin, ces gros blocs de pierre. Et d'ailleurs, c'est là aussi, tu nous avais rapidement évoqué le sujet la dernière fois qu'on t'avait reçu. Tu avais déjà en tête, évidemment, de proposer un peu la possibilité, justement, aux personnes d'avoir des blocs physiques. Et donc là, il y a un projet que tu as introduit, je crois que c'est la semaine dernière, si je ne me trompe pas. C'est du coup cette block collection. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Bien sûr. Alors, Léonidas, il m'avait proposé il y a un peu plus d'un an et demi de travailler sur Ordinals, de faire une création sur Ordinals. Je ne connaissais pas bien le protocole, puis je n'étais pas encore très convaincu. Et moi, je n'ai pas vraiment de chapelle. Je travaille sur Ethereum, sur Tezos, j'essaye de voir les différentes blockchains pour leurs intérêts et pour ce qu'elles ont de lien avec la créativité. J'adorais le concept Ordinals, mais j'étais très contraint par cette notion de ne pas encore bien comprendre la manière de minter, le poids qu'on pouvait mettre dessus. J'avais besoin de m'acculturer un petit peu. Mais j'ai toujours eu cette idée de lier le bloc de marbre à la blockchain. On parle de blockchain pour l'information numérique gravée dans le temps. On parle de bloc de marbre pour ce qui est gravé dans le monde physique de manière le plus pérenne possible. Et j'ai toujours eu l'idée de faire un lien entre blockchain, bloc de marbre et d'essayer de, de minter une création qui aurait son existence en tant que telle, en tant qu'œuvre digitale, mais qui serait aussi une sorte d'équivalent bloc de marbre dans le monde physique, dans le cadre d'une envie de revenir sur de l'art physique. Et voilà, cette idée de minter the block, bien sûr, maintenant que j'ai cette meilleure intégration de la blockchain Ordinals dans mon esprit créatif, l'idée, c'est de créer une série de 1000 blocs qui ont bien sûr différents niveaux de rareté, mais dont la fonction initiale est de pouvoir être assemblés, burnés, pour obtenir une œuvre d'art en marbre physique. Donc c'est vraiment une manière de créer une supply limitée qui va être accessible pour tous les détenteurs de runestone, en mint vraiment serré parce qu'il y a peu de supply, et qui puisse aussi être un exit le jour où les personnes qui en ont un certain nombre souhaitent en burn une partie pour recevoir une véritable œuvre en physique, qui peut être une sculpture en marbre très figurative de mes œuvres, ou bien une runestone, ou bien un objet un peu qui a un sens par rapport à la blockchain. Il y aura une série d'œuvres, une centaine d'œuvres en marbre qui seront faites sur les 3 années à venir, et ces œuvres, elles seront donc exclusivement mises en burn pour ce système d'échange entre les blocs digitales et les œuvres physiques.
D'accord, donc c'est donc on a 3 types de blocs de marbre, hein, si je ne m'abuse. Donc tu l'as dit, hein, donc c'est un total de 1000 pièces, hein, c'est ça.
Absolument.
Et donc ça va être en fait c'est d'abord une collection NFT avec, si je comprends bien, tu me dis si je me trompe, 3 tirs comme on dit, 3 catégories. Avec le plus rare, j'imagine, qui est 1 sur 10, donc le bloc de marbre, enfin le orange bloc de marbre, donc en passant par le bloc noir et enfin le bloc blanc, c'est ça ?
C'est ça, absolument.
Et on a on retrouve les codes, en effet, de la collection NFT, donc au moment où on va minter, on va savoir quel type de bloc on a.
Et
en effet, parmi donc les gens qui ont leur NFT, qui ont le NFT, certains auront, en fait, il suffira de, enfin, si je comprends bien, par exemple sur les blancs, là il y a l'explication, de brûler 3 de ces blocs pour avoir une pièce physique.
C'est ça. L'idée de ce système, en fait, c'est d'une part d'avoir une œuvre numérique, hein, parce que c'est un véritable fichier 3D GLB sur la blockchain Ordinals. Donc, il y a déjà une technicité de création et d'inscription qui est déjà un petit peu spéciale par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur Ordinals. Donc, soit on garde le bloc physique, soit si on a la chance d'en avoir plusieurs ou de souhaiter en faire quelque chose d'autre, on peut les combiner et les burn pour obtenir une véritable œuvre physique en marbre. Donc, c'est un peu une coexistence. Est-ce que l'on décide de rester dans la détention de l'œuvre digitale ? Et dans ce cas-là, bah, mécaniquement, dans le temps, le supply va baisser parce que des burns arriveront. Donc, il y aura de moins en moins de blocs disponibles sur le second marché. Et donc, un jour, ça va sûrement s'équilibrer. Les gens s'arrêteront de burn leurs blocs parce qu'il n'y en aura plus beaucoup. Soit on décide d'avoir une œuvre physique parce qu'on aime mon art sculptural ou on a envie d'avoir une runestone en marbre un peu incroyable et on burn certains de ces blocs pour obtenir une œuvre physique. C'est un petit peu une manière aussi de backer la valeur sur du solide, entre guillemets, c'est-à-dire comme on est sur un marché où on ne sait pas encore vraiment bien l'engouement d'Ordinals dans les années à venir, on peut se dire que dans 3 ans, bah, ça vaudra peut-être beaucoup, mais ce n'est pas la question, on est vraiment sur une œuvre artistique. Mais on peut aussi se dire, bah, dans 3 ans, si finalement j'ai l'envie de sortir, bah, je peux revenir à une œuvre physique de Léo qui a son existence aussi.
Génial. Et juste pour bien comprendre, moi, je vois que donc, tu l'as dit, en brûlant 3, j'obtiens une pièce de 40 cm. Et certains vont avoir, c'est quoi, il y en a 10 spéciaux parmi les 66 blancs?
Non, c'est vraiment si on veut une œuvre plus grande, plus complexe, plus valorisable dans le monde physique, on peut en burn jusqu'à 10. Mais je vais un peu préciser tout ça, c'est un peu la mécanique de base. L'idée, c'est qu'il y ait plusieurs options derrière. Chaque semaine, je vais un peu montrer des œuvres et il y aura un taux de blocs à brûler pour ceux qui souhaitent.
Donc, la pièce que tu vas sculpter derrière, ce n'est pas forcément une runestone, ça peut être…
Sur les blocs blancs, c'est des œuvres figuratives de mon travail. Ça n'est que les blocs noirs qui offrent les runestones. Donc,
D'accord. Oui, 3 black blocs, très bien, physical marbre. Oui, donc c'est bien. Et donc, 6 black blocs, en effet, qui font une runestone, par exemple. D'accord, voilà. Très bien.
Voilà.
D'accord, génial. Donc, en effet, il y a toute une mécanique. Et d'ailleurs, dans la mécanique, donc pour évidemment, c'est dans la philosophie hein, de la runestone, c'est dans la philosophie de la runestone, y a une priorité qui est donnée au holder de runestone, c'est ça ?
Alors, dans l'idée, comme moi, je suis très reconnaissant, entre guillemets, par ce qui s'est passé avec le lancement de runestone et le projet qui a lieu avec Léonidas, moi, j'ai souhaité que Léonidas soit en accord avec ce que j'allais proposer parce que je ne voulais pas que mon projet sonne d'une quelconque manière opportuniste par rapport à la visibilité que j'ai. C'est avant tout un projet d'art et je le fais parce que j'aime les sculptures et je souhaite mettre en avant des choses un peu nouvelles dans l'écosystème. Maintenant, Léonidas m'a conseillé, et je trouvais ça intéressant, que dans un premier temps, il y ait une whitelist pour tous les détenteurs de Runestone parce que ça permettait lui aussi de mettre en avant son projet à travers le mien. Et je trouvais ça très intéressant. Après, je lui ai fait comprendre à Léonidas que j'avais aussi tout mon écosystème à moi, qui étaient des gens qui me suivaient, que j'apprécie aussi dans l'écosystème français notamment. Et il m'a dit, bien entendu, il y aura quelques whitelists disponibles pour d'autres personnes qui n'ont pas forcément de runestone. Mais à la base, ces whitelists, c'est exclusivement pour toutes les runestones, plus quelques whitelists en plus pour les personnes invitées.
Donc, alors si on a une runestone ou qu'on fait partie de ces invités, on va pouvoir être, donc on aura notre, j'imagine, il va y avoir une sorte de snapshot qui va être fait sur les adresses Bitcoin et ensuite on pourra aller minter, ça va se passer quand ?
Exactement, le snapshot est 24 heures avant le mint, le mint aura lieu jeudi à 18h aux D'accord. heures françaises. Donc voilà, mercredi 18h, il y aura un snapshot qui sera fait de toutes les adresses Runestone. Tous les détenteurs de Runestone dans leur wallet seront donc automatiquement en whitelist. Il n'y aura rien à faire en particulier. Pour ceux qui n'ont pas de Runestone, il faut avoir accès à une invitation. Et je vais en partager peu. Je peux l'annoncer maintenant. Je ne sais pas si tu le souhaites, mais il y en aura. Il y en aura donc un lot pour le groupe NFT Morning, bien sûr. Donc, tous les auditeurs, il y aura une dizaine de whitelists qui seront disponibles pour les auditeurs et pour les gens du NFT Morning. Maintenant, je suis fondamentalement un petit peu limité. Donc, voilà, j'aimerais en donner à tout le monde, mais je suis forcément dans le devoir de respecter les accords qui m'ont été donnés. Voilà, mais en tout cas, je suis très heureux de vous annoncer qu'il y aura donc une série de whitelists pour les auditeurs d'aujourd'hui.
D'accord, génial. Génial. Donc, on a dit, ouais, il y aura 10 whitelists. Hein, je m'engage un peu, hein, a priori, 10 whitelists offertes et on va le faire pour... Rem, explique-nous comment ça va se passer.
Tout simplement, il n'y a rien à faire. Hein, c'est juste, vu qu'on veut donner un peu plus d'utilité aussi aux POAP qui ont déjà été claim précédemment. Donc, en fait, il suffira... on va voir en fait le nombre de POAP qu'il faut posséder, mais en gros, si vous possédez un ou plusieurs POAP du NFT Morning, vous serez dans la liste pour le tirage au sort.
On va tweeter.
Il y aura un tirage au sort qui sera fait. Ouais, voilà.
Faudra juste
on va faire le tirage au sort aujourd'hui ou demain, hein, dans l'idéal.
C'est ça. Bon, on va faire le tweet aujourd'hui pour expliquer et comme ça, on aura la liste d'ici demain soir. Génial, bon, génial.
Ravi qu'il y ait des gens de l'écosystème français qui joignent le projet parce que c'est vrai que les détenteurs de Runestone, il y en a beaucoup en France aussi, mais c'était forcément limitant. Et là, je suis très heureux qu'il y ait un écosystème un peu plus français qui tourne autour de ce projet aussi.
Merci beaucoup. Hein. C'est un plaisir de vous avoir tous les deux, Léo, Kiki, et du coup, merci Mathis aussi. Kiki,
ça fait beaucoup de cadeaux hein, ce matin.
C'est la journée, tu vois, on commence la matinée avec des cadeaux. Il va y avoir des tweets. Et plein de choses pour recevoir des cadeaux. Et je voulais vous remercier tous les deux. On va simplement closer la room avec le programme de la semaine à venir. Léo, Kiki, je voulais vraiment vous remercier d'être venu ce matin. Et on a hâte de suivre ça. Et en tout cas, c'est beau d'avoir des projets de ce type-là en ce moment dans cet écosystème. Et donc PPRGB qui se revendique, le français qui fait des shitcoins. Voilà, très bien. Et donc, je vais enchaîner tout de suite. Merci à tous les deux. On vous laisse tranquille retourner à vos occupations. Et simplement, bah, je voulais vous présenter le programme de la semaine au NFT Morning, parce que la semaine va être aussi riche et chargée. Demain, on commence tout de suite avec NFT Girls. Et notamment, il y a Jessie qui était à NYC qui va nous faire son petit feedback sur NFT NYC. Donc, bah, ça va être sympa parce que ça s'est passé cette semaine. Voilà, en plus, c'est un NFT NYC de début de bull run. Donc, c'est toujours intéressant de voir un petit peu l'énergie qui en ressort. Mercredi, c'est la room spéciale avec Samy de Decrypt. Donc, en collaboration, on fait avec eux. Et on va faire un petit débat parce que j'aime bien les débats. C'est finalement comment ressusciter le marché NFT sur ETH, notamment. Et je l'ai formulé comme ça, si on vous donnait... Rem m'a dit 100 millions de dollars. Comment vous pourriez finalement réveiller
ça? T'avais dit 10, j'ai dit à 100, je commence à réfléchir.
Voilà, tout simplement. Et donc, ce jeudi, on va parler d'une blockchain, enfin d'un second layer dont tout le monde parle en ce moment, c'est l'écosystème Base, donc le second layer Ethereum, sur lequel il y a beaucoup, beaucoup d'activités en ce moment. Il y a des coins, il y a du NFT. On a vu que Foundation a lancé du coup sa plateforme sur Base aussi la semaine dernière. Et donc, il y a Pierre Pose qui va nous éclairer un petit peu sur tous ces sujets-là ce jeudi. Et puis enfin, vendredi, Rem, on reçoit Distributed Gallery.
Ça parle.
Ouais, ça te parle. Je pense que ça te parle parce que c'est toi qui les as invités.
Pas sûr.
Donc en fait c'est un collectif d'artistes d'artisans qui sont dans l'art contemporain depuis 2017 et donc qui sont notamment connus essentiellement pour avoir fait des travaux autour de la blockchain, mais souvent du physique. Tu as dû le voir une fois, le fameux bandit manchot Bitcoin, Rem, tu vois de quoi je te parle ou pas?
Mais oui, bien sûr.
Donc c'est eux qui ont fait ça, voilà, qui a été exposé dans plusieurs expositions, et donc ils ressortent avec des nouveaux projets. Maintenant qu'on en parle, je pense que c'est moi qui les ai invités, t'as raison, Rem. Donc, et donc voilà, on les reçoit ce vendredi, donc la semaine va être encore assez riche et chargée. Je ne sais pas, toi, il y a des choses que tu attends en particulier, d'ailleurs Mathis, à part l'exposition justement cette semaine?
Sur cette semaine-là, bah, c'est voir un peu. C'est vrai que là, on est un peu dans une phase de marché un peu calme, un peu. À part Base, effectivement, les Layer 2 et Solana qui explosent. Sur le reste, on est un peu dans un entre-deux. Donc, j'attends de voir un peu comment les choses vont évoluer. Et puis surtout, effectivement, comme vous dites, voir si le marché NFT va finalement se réveiller vraiment au-delà des Layer 2, au-delà de Base et tout ça, quoi.
Et ben, ça va être un peu notre discussion aussi de mercredi, justement. Donc on va pouvoir suivre tout ça. Et en tout cas, c'était un plaisir de tous et toutes vous avoir aujourd'hui. Voilà, restez connectés sur le compte du NFT Morning si vous voulez justement être éligible pour pouvoir minter les différentes collections. Et qu'est-ce qu'on dit, Rem? Est-ce qu'on a un autre message à faire passer ou est-ce que ça y est, on ferme la boutique pour aujourd'hui?
Ah non, hein, je crois qu'on est bon là.
Hein. Eh bien alors écoutez, passez une excellente journée et good
morning.
Happy. Good morning. Really happy.